Dans cette émission, au cœur de la foi, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Alain Delaib. Vous êtes enseignant à l'Université catholique de l'Ouest, à la faculté de théologie, et vous enseignez le bouddhisme et l'hindouisme. Et vous avez aussi travaillé un auteur dont vous allez proposer une présentation, une conférence, vendredi 10 juin à l'Université catholique de l'Ouest, à 20h, sur Eti Ilesun. Alors, au fond, comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette jeune Allemande et à travailler ses écrits?
Alors, c'est une toute petite rectification, c'est une Hollandaise, ce n'est pas une Allemande, mais ce n'est pas bien grave. Comment j'en suis venu là? Eh bien, paradoxalement, c'est André Comte-Sponville qui m'a aiguillé sur ça. Je m'intéressais à l'époque à Prajnampane, qui est un sage indien, et il avait fait une introduction à Prajnampane. À la fin de cette introduction, d'une manière tout à fait inattendue, il a introduit une page d'extrait de Eti Ilesun, en montrant à quel point la pensée de Prajnampane était proche de celle de Eti Ilesun. Et donc, sur le moment, ça m'a séduit. J'ai voulu approfondir la chose. J'ai voulu aussi élargir le sujet à partir, disons, avec deux autres maîtres spirituels que j'aime beaucoup. Donc, c'est le point de départ est là, quoi. Le point de départ, mon intérêt pour Eti Ilesun, ça a été cette connaissance que Comte Sponville m'a fait d'elle, quoi, m'a donné d'elle.
Alors, au fond, qui est-elle? Puisque je me suis déjà trompée sur sa nationalité, qui est cette jeune femme hollandaise?
Donc, c'est une juive, hein, c'est une juive qui est. Elle est née en 1914, elle est morte en 1943. Elle est morte, elle n'avait pas 30 ans, elle est morte à Auschwitz. Et pendant les 3 années qui ont précédé sa déportation, elle a été amenée à écrire un journal, donc, dans lequel elle témoigne en quelque sorte de l'époque qu'elle a vécue, de ses années, mais en même temps de son parcours spirituel qui est absolument étonnant. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir comment une jeune étudiante tout à fait délurée, tout à fait, je dirais, ordinaire, hein, un peu bon, sans terme péjoratif, est devenue comme ça, en l'espace de 3 ans, vraiment a fait un itinéraire. Un parcours assez exceptionnel. Donc, durant ces 3 ans, elle a écrit ce journal. Elle est morte à Auschwitz. Ce journal est resté 40 ans complètement occulté, caché. Hein, il n'est pas sorti. Puis en 1981, un éditeur donc s'est intéressé à ce journal, a commencé à publier quelques chapitres. Et à partir de là, disons, ça a été là, exponentiel, c'est-à-dire la montée en flèche. Aussitôt, ça s'est vendu, ça s'est traduit. Aujourd'hui, elle est traduite. Tout son journal en entier est traduit en plusieurs langues. Sa correspondance aussi. Si on veut avoir la curiosité de la place qu'elle prend aujourd'hui, vraiment dans le monde du spirituel, il y a une association qui est les Amis d'Eti Ilesun, qui a un site, et ce site met toutes les semaines au point tout ce qui se dit, s'écrit, se fait, se joue, parce qu'il y a des spectacles autour d'Eti Ilesun. C'est assez extraordinaire.
Une jeune juive d'une fécondité absolument incroyable, bien longtemps après sa vie et sa mort dans les camps de concentration. Donc j'ai dit une jeune juive, est-ce que le caractère juif d'Eti faisait partie de sa culture? Est-ce que c'est à partir de là qu'elle a déployé sa dimension mystique? Au fond, comment ça lui est arrivé, cette aventure, ce retournement?
Alors oui, c'est une bonne question, puisque en effet, elle était juive, mais ce qu'on appelle, c'est comme ses parents d'ailleurs, ce qu'on appelle des juifs assimilés, c'est-à-dire des juifs qui se sont tellement intégrés dans le pays où ils étaient, qu'ils ont abandonné en quelque sorte la pratique du judaïsme. Donc elle n'était pas plus juive que ça, finalement, d'un point de vue religieux, hein, on va s'entendre. Mais elle était ethniquement juive. Et alors ce qui est étonnant, c'est que la persécution nazie a renforcé énormément cette solidarité avec son peuple, si bien que elle a été victime, hein, comme tous les juifs, de la persécution nazie. Et c'est à partir de là qu'elle a découvert, en quelque sorte, qu'elle a resserré ses liens avec le judaïsme. Mais la mystique dont vous parlez, c'est plutôt, disons, elle s'est éveillée à la foi, on va dire, à l'aide, par l'intermédiaire d'un psychologue, Julius Speer, donc qui l'a aiguillée vers la Bible, vers Saint-Augustin, vers Maître Eckhart, vers des textes orientaux aussi.
Comment Julius Speer est entré dans son existence?
Alors, tout à fait, de manière tout à fait anecdotique, de manière tout à fait, je dirais, imprévisible, par relation, comme ça. Elle avait beaucoup de problèmes, hein, elle avait des problèmes psychologiques, elle avait des problèmes sexuels, elle n'y voyait pas très clair. Elle avait pas une très bonne santé non plus. Et voilà que des amis lui ont dit, mais tu devrais aller voir Spire parce qu'il peut t'aider. Il peut t'aider, c'est un psychologue, c'est un chirologue, c'est de la psychologie en lisant les lignes de la main. Il prédisait pas l'avenir, hein, mais il faisait la caractérologie à partir de la main. Et là, elle est allée voir Jules Spire, qui lui a conseillé d'écrire un journal, c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a ça, qui l'a orienté vers des textes, hein, et qui l'a prise en main, mais prise en main, il faut dire, dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'il est devenu son mentor, son maître spirituel, et même son amant. À un moment donné. Ça a été très court, mais là, elle a eu un rapport extrêmement intense. Ça a été son grand amour aussi, quoi. Elle en parle constamment dans son journal.
Au fond, son livre, donc Une vie bouleversée, comment nous aide-t-il à rentrer dans cette mystique d'un nouveau genre, on pourrait dire, à cette liberté, cette créativité que Etty déploie? Comment vous avez vous-même lu, interprété cette vie bouleversée?
Eh bien, disons que là, une des premières choses qu'on voit, c'est que c'est un texte confidentiel, un texte qui n'a pas été fait pour être publié, qui est brut de coffrage, qui est là. Et ce sont des tranches de vie qui nous sont données et qui, peu à peu, quand on progresse dans le journal, au début, c'est très banal, on s'embête à lire ça. Moi, j'avoue, les premières pages du journal, on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais au fur et à mesure qu'on progresse, on se dit, ça prend de l'étoffe, ça prend de la substance. Et au fur et à mesure qu'elle-même s'approfondit, son journal devient un véritable écrit spirituel, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Et à côté de ça, il y a aussi sa correspondance qui suit aussi un petit peu le trajet.
Je rappelle que nous sommes aujourd'hui avec vous, Alain Delaye, que vous allez proposer une conférence, Etty Ilesoun, et vous avez intitulé votre conférence « Juive, point d'interrogation, chrétienne, bouddhiste ». Au fond, pourquoi vous prenez cet angle interrogatif?
Eh bien, parce que, justement, Etty, au départ, n'avait pas trop de racines. C'est Jules Spire qui lui a donné, finalement, ses racines religieuses, puisqu'il l'a orienté vers la Bible, vers les orientaux, etc. Donc, elle est à cheval, elle a pris son bien un petit peu partout où elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé dans la Bible, elle l'a trouvé dans les mystiques chrétiens, elle l'a trouvé dans certains écrits orientaux. Et à partir de là, donc, je me suis posé la question, parce qu'en ce moment, il faut dire aussi que les chrétiens essayent beaucoup d'en faire une chrétienne. Mais une chrétienne, point barre, c'est-à-dire... Or, je pense que c'est une erreur, en ce sens que ça risque de blesser certains juifs aussi. Et de ne pas faire justice à toute la partie, je dirais, mystique orientale, qui est très très présente, qu'on peut lire entre les lignes, mais qu'on peut lire aussi, des fois, sur les lignes, dans son journal. Donc, j'ai posé la triple question pour y répondre.
Et alors, à votre avis, de cette... on pourrait presque dire qu'elle va approfondir l'un et l'autre texte. Qu'est-ce qui, chez elle, pour vous qui avez beaucoup travaillé la mystique hindouiste et bouddhiste, qu'est-ce qui la rapproche de ce type de perception du monde?
Alors, elle a disons, une perception du monde qui est cosmique. Hein, c'est-à-dire qu'elle a un sentiment très très fort de solidarité avec tous les êtres de l'univers et avec tous les hommes, bien sûr, et femmes. Et à partir de là, donc, elle s'est ouverte. La pensée orientale est quand même extrêmement cosmique, hein, alors que la pensée chrétienne, disons, est plus humaniste, hein, on va dire. Hein. C'est pas... Donc, on trouve ça chez elle, on trouve un peu tout chez elle, on peut trouver un peu tout ce qu'on veut. Mais si on la lit attentivement, on se rend compte qu'elle a des racines un peu partout, mais qu'elle n'a de frontières nulle part finalement, hein, qu'elle passe d'une chose à l'autre. Et pour prendre un exemple concret, bon, par exemple, souvent dans son journal, elle prie. Elle donne le texte même de sa prière, des prières très courtes, qu'elle adresse à Dieu dans des situations difficiles, ou des réflexions qu'elle fait à Dieu parce qu'elle en a marre, parce que ceci, parce que cela. Voilà, donc elle tient un langage de dialogue avec Dieu. Et ça, on est dans un contexte quand même qui est le contexte de saint Augustin, le contexte de sainte Thérèse d'Avila, le dialogue de la prière comme dialogue. Et puis elle a une partie d'elle qui ne parle plus, qui se tait, qui rentre dans un silence contemplatif, on va dire. Et là, elle ne parle plus de prière, elle parle de méditation. Et elle donne même des techniques de méditation. C'est-à-dire qu'elle elle montre comment il faut faire pour méditer, comment elle fait pour méditer. Et donc, à partir de là, je pense... Et elle dit elle-même, d'ailleurs, à un moment donné, « Bon, maintenant, ça va être... je vais faire mon petit quart d'heure bouddhiste, quoi. » Donc, elle a vraiment des références explicites, n'est-ce pas, au bouddhisme. Et si on la lit entre les lignes, qu'on connaît un peu les Upanishads, la Bhagavad Gita, on se rend compte qu'il y a beaucoup de thèmes qui recoupent les grands thèmes de la spiritualité hindoue.
Alors vous nous disiez, Alain Delaye, qu'au fond, elle, c'est une mystique sans frontières, c'est-à-dire qu'elle a des racines partout et qu'elle fait son miel. Sa liberté, c'est de travailler l'ensemble de ses racines pour construire une liberté qui est affrontée au drame, parce qu'elle a vécu une histoire dramatique. Au fond... Comment elle conjugue tout ça? Parce que c'est l'art d'Eti de conjuguer.
Eh bien, elle n'a pas cherché à faire de... C'est pas une philosophe au sens où pourrait l'être Hannah Arendt ou pourrait l'être Simone Veil. Elle n'a pas essayé, de construire une pensée. Son journal, c'est au jour le jour. C'est daté d'ailleurs. C'est tel jour, à telle heure, le matin, le soir. C'est constamment ça. Ou alors sa correspondance qui est datée, elle aussi. Donc, elle n'a pas essayé de construire un système. Donc, c'est à partir de réflexions spontanées, au fil des jours, au fil des événements, des situations qu'elle a traversées, qu'elle a bâti une sorte de pensée, mais profonde, profonde, si bien que on peut, et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, on peut à partir, je dirais, en réunissant un certain nombre d'extraits, on peut voir qu'elle a une pensée forte, mais elle ne s'exprime pas, elle a navigué un peu au jugé là-dedans, quoi. Elle n'a pas essayé de bâtir un système. Et d'ailleurs, elle-même, au départ, à la fin, elle aurait aimé que son journal soit connu. Mais au départ, elle n'écrivait pas ça pour être publié. Donc, elle se parlait à elle-même, en quelque sorte.
Merci infiniment, Alain Delaye, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné envie de venir vous écouter. Donc, je rappelle que la conférence Eti Ilesun aura lieu le vendredi 10 juin à 20h à l'Amphi Diès, à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. Merci et à très bientôt.
Merci à vous.